Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. Géopolitique est à Marrakech pour la 10e édition de la World Policy Conference. Regard sur la place du Maroc dans ses environnements régional et continental. Le Maroc qui en janvier dernier réintégrait 32 ans après en avoir claqué la porte l'Union africaine. Le Maroc dont l'adhésion à la CEDEAO a été approuvée tout en ne faisant pas l'unanimité à quelques semaines du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Regard sur un pays qui est le deuxième investisseur africain sur le continent et les défis de Rabat sur autant de questions que celles du Sahara occidental, de la Libye, de la relation avec l'Algérie, de celle avec les monarchies du Golfe dans la crise qu'elles connaissent. Si l'Afrique est aujourd'hui la priorité de la politique extérieure du Royaume, regard sur les relations entre Rabat et son continent, celles aussi entre Rabat et la rive nord de la Méditerranée, nos invités. Assia Ben Salah, ambassadeur itinérante de Sa Majesté le Roi, bonjour.
Bonjour.
Thierry de Montbrial, membre de l'Institut, président et fondateur de l'IFRI, de la World Policy Conference, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Vivre le temps des troubles, chez Albin Michel. Bonjour.
Bonjour.
Et Karim El Enaoui, directeur général de OCP Policy Center. Bonjour.
Bonjour.
Le 31 janvier 2017, le Maroc réintégrait l'Union africaine après 3 décennies d'absence. En 1984, le Maroc a quitté l'Union africaine parce qu'elle avait accepté d'y accueillir la République arabe sahraoui démocratique, entité créée par le Front Polisario. Celle-ci siège encore à l'Union africaine. 30 années de perdu, est-ce que c'est comme cela qu'on pourrait peut-être résumer la situation pour la diplomatie marocaine, Assia Ben Salah ?
Certainement pas, c'est pas perdu. Il y a eu une évolution sur le terrain. Le Maroc était confronté à la problématique justement du Sahara et il me semble qu'on a changé de contexte, d'évolution, de règne aussi. Et par conséquent, Sa Majesté Mohamed VI, après son accession au trône, a souhaité donner à la politique africaine la priorité, ce qui est en fait une continuation, mais aussi un changement avec une vision globale, avec une vision mûre, me semble-t-il, car c'est une priorité réelle. Et je crois que ce n'est que justice pour rendre à la place fondamentale du Maroc en tant que carrefour, bien au-delà du cliché, et de pont entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Est et l'Ouest. Et il me semble que le Maroc a un rôle fondamental à jouer dans cette relation, fort aussi de ses nombreux atouts, de son expérience, et surtout de son attachement à l'Afrique. Je veux dire, au-delà, il y a aussi le côté émotionnel qui est fondamental et culturel, comme vous ne manquerez peut-être pas de le souligner.
Thierry de Montbrial.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Assia, mais il est vrai aussi que d'un autre point de vue, on peut dire que les absents ont toujours tort. On a souvent observé dans les groupes, et particulièrement dans les organisations internationales, que quand on est absent, ben, il se passe des développements en général à votre détriment. Bien, cela dit, je crois qu'on ne peut pas raisonner dans l'abstrait, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Assia, que les temps ont changé. Les temps ont changé, en revanche, les problèmes politiques fondamentaux demeurent.
Alors, les problèmes politiques fondamentaux demeurent. Karim El Enaoui, je vous laisse réagir par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent et on en viendra peut-être à essayer de comprendre la manière dont Rabat va s'y prendre pour reconstruire son influence au sein de l'Union africaine.
Je pense qu'avant de conclure, est-ce que c'est perdu, pas perdu, on n'aura jamais le contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si nous étions restés. Je pense qu'il y a aussi... L'Union africaine elle-même a beaucoup évolué. L'Union africaine d'il y a 30 ans ou 40 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Ce qui me semble habiter les décideurs et de l'ensemble des pays africains, c'est tout de même l'impératif du développement. C'est la nécessité de répondre aux besoins des populations. Et l'Afrique elle-même, aujourd'hui, est essentiellement composée de jeunes. Et il faut répondre à ce défi. Et l'Union africaine elle-même, au-delà des questions de paix et de sécurité, l'enjeu central, c'est tout de même celui du développement. Il est, me semble-t-il, important pour cette institution d'avoir le deuxième investisseur du continent, mais aussi premier investisseur dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest, assez diversifié d'ailleurs, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'agriculture, des engrais, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'éducation. Donc les choses arrivent aussi quand elles doivent arriver, si vous voulez. Il y a un processus de maturité. Maintenant, les problèmes demeurent. Il y en aura toujours. La question, c'est, je crois qu'il faut aussi voir l'adhésion du Maroc à l'Union africaine comme un retour à la normalité, évidemment, puisque c'est un pays africain. Mais le voir aussi comme une invitation de bonne foi, si vous voulez, pour engager un dialogue, pour trouver une solution pérenne à son sud. Et je crois que c'est une forme de tolérance, puisque le Maroc a rejoint et se retrouve dans cette institution avec les autres pays africains. Si on veut progresser, il faut aussi savoir prendre des virages. Et je pense que c'est aussi une option, une opportunité qui est ouverte. Et les problèmes du Maroc ne sont pas uniques. Hein. Il y a beaucoup d'autres difficultés, conflits, etc. entre pays en Afrique. Et je pense que l'Union africaine sortirait renforcée de la résolution de notre affaire du Sud.
Thierry Montbrial.
Oui, je crois qu'on peut être un peu plus spécifique sur les difficultés, parce qu'il est évident que les organisations internationales, le système de l'ONU est aussi un moyen que certains pays règlent leurs comptes contre d'autres, etc. Donc les rivalités d'influence et le fait que la prétendue, soi-disant, appelons-la comme on veut, République arabe sahraoui, fasse partie toujours de l'Union africaine, crée un double problème. Un problème parce que cet enjeu, comme souvent, est manipulé par bien d'autres, en particulier par les adversaires du Maroc ou pour tous ceux qui cherchent à lui nuire, ou par des mouvements d'opinion publique souvent dirigés. Mais il y a également un aspect très diplomatique. Je vous donne un exemple. Il y a un sommet annuel entre l'Europe et l'Afrique. Bon, il se trouve que ce sommet, son nom officiel maintenant, c'est entre l'Union européenne et l'Union africaine. Bon, ça pose évidemment un problème diplomatique. Oui. Mais là, on est dans des questions qui sont vraiment le propre de la diplomatie. C'est-à-dire que ce sont des situations délicates, mais qui peuvent... Avec le temps, se résoudre. Mais il ne faut pas se cacher derrière son nombril, ce sont de vraies difficultés.
Des difficultés, alors je me tourne vers vous, Assia Ben Salah. Il est vrai que ce changement de nom ne plaît pas particulièrement au Maroc, parce que ça permet à la République sahraoui précisément d'être présente à cette réunion. Qu'est-ce que l'on peut dire concrètement aujourd'hui, et quelle analyse faites-vous des relations entre le Maroc et l'Algérie ?
Ben écoutez, les relations entre le Maroc et l'Algérie sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une très très grande marge pour les améliorer. L'on sait qu'il y a des difficultés auxquelles sont confrontés notre voisin à l'Est et il me semble qu'il y a une fixation aussi sur la problématique du Maroc qui est en fait une espèce de diversion à beaucoup de problèmes internes. Donc il est clair que l'Algérie se dit partie prenante, partie concernée, mais en même temps elle ne se comporte pas en tant que telle et par conséquent il va bien falloir que nous trouvions à un moment donné, qu'on se mette autour de la table et qu'on puisse discuter aussi directement avec les Algériens. Mais au-delà de cette difficulté, moi je crois que maintenant, de toute façon, nous vivons avec ce conflit depuis 30 ans. Nous connaissons le pourrissement des situations. Les situations évoluent aussi sur le terrain. Le Maroc est devenu un autre Maroc. Et par conséquent, il est extrêmement attaché au règlement des problèmes d'abord de développement chez lui. C'est ce que nous essayons de faire avec toutes les difficultés que nous connaissons dans les conjonctures économiques difficiles, les environnements sécuritaires chahutés, pour le moins, mais aussi bien au-delà. Je crois que le grand atout du Maroc est qu'il est vraiment avec une vision africaine. Et quand vous dites perdu, je ne suis pas d'accord, parce que cela fait plus de 15 ans, cela fait 18 ans que Sa Majesté est roi du Maroc. Et dès le premier jour, il a annoncé deux priorités. Les femmes, et je m'en réjouis, et évidemment l'attention à l'Afrique. Non seulement il l'a annoncé, mais il l'a pratiqué. Tous ses voyages, y compris les voyages de loisirs et de vacances, il les a passés en Afrique. Et ceci va très loin. Ça va depuis l'intérêt, si vous voulez, et la relation bilatérale, évidemment institutionnelle, avec nos partenaires, avec les États, mais également avec le peuple, avec les fondations. Moi-même, je fais partie de la fondation Alaouite, et je suis allé au Sénégal avec Sa Majesté, parce que nous avons ouvert une clinique privée pour opérer les Sénégalais pour la cataracte, et donc une espèce de transfert de know-how aux Marocains. Donc il y a aussi cette relation avec le peuple, qui a été historique, et que nous sommes en train de retrouver, et que nous avons toujours vécu assez sereinement, avec évidemment toutes les dimensions, y compris la dimension religieuse, sur laquelle peut-être nous reviendrons, car la diplomatie religieuse joue un rôle fondamental maintenant dans les relations avec l'Afrique.
Alors ce qu'on peut juste rappeler pour nos auditeurs, et je parle sous votre contrôle bien sûr, Madame Ben Salah, entre 2014 et 2016, Mohamed VI a réalisé 7 tournées à travers le continent africain, révélant évidemment la volonté d'influence économique et politique du Maroc dans la région. Juste pour en revenir à l'Union africaine, donc le Maroc a retrouvé son siège, comment reconstruire l'influence? Alors vous parlez de ces, on évoquait ces voyages, c'est une influence qui se reconstruit depuis un certain temps maintenant. Au sein de l'Union africaine, quelques mots peut-être, Karim El Hennaoui?
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il me semble que l'intérêt, ce qui préoccupe les pays, c'est vraiment leur développement. Tout le reste, quelque part, il faut le gérer. Mais quand vous avez, vous savez que vous, d'ici 2050, sur l'ensemble du continent, vous avez 30 millions de nouveaux arrivants sur le marché du travail chaque année. Et donc, c'est ça l'enjeu central pour ces pays-là. Et le Maroc arrive, en tant que pays à revenus intermédiaires, l'un de ceux-là, hein, mais arrive avec des propositions, arrive avec des choses très concrètes dans le domaine donc du transfert de connaissances, de capacités, etc. Mais tout simplement de propositions win-win dans le cas du secteur privé, d'investissement. Donc les mots, vous voyez, les investissements sont là où les mots sont et là où le cœur est. Hein, donc vous avez donné ce chiffre sur l'investissement direct étranger marocain dans l'ensemble du continent. Et donc c'est ça qui intéresse finalement l'ensemble de ces pays-là, au-delà de conflits et d'arcanes d'institutions. Et je pense que c'est aussi là l'essence même de la proposition, de la volonté du Maroc de rejoindre la CEDEAO, c'est d'approfondir son intégration économique, d'avoir des partenariats, de construire des infrastructures de réseau avec ces pays-là, d'apporter sa contribution. Et beaucoup de ces pays qui sont nombre d'entre eux à bas revenus regardent aussi le Maroc comme, en tant que pays intermédiaire, comme une expérience intéressante, puisqu'ils ont tous des plans pour devenir pays à revenus intermédiaires à moyen terme. Donc on se comprend, si vous voulez, on comprend bien l'urgence du développement, puisque nous étions nous-mêmes, il y a une trentaine d'années, un pays à bas revenus ou très proche, à peine revenu intermédiaire. Donc ça crée une proximité, que vous trouvez un peu aussi cette proximité avec la Chine, qui comprend bien, 30 ans ou 40 ans après le point de départ du début des années 80, les enjeux du développement en Afrique. Donc je crois qu'il y a, c'est une certaine forme de réalisme, hein, ou de ce que, depuis la nouvelle présidence en France, on appelle le néo-réalisme. Nous sommes, je crois, assez réalistes de ce point de vue-là, et pragmatiques en cherchant des solutions efficientes. Et il me semble que d'ailleurs, de manière générale, le dialogue avec l'Europe gagnerait à être ancré autour de ce néo-réalisme, par opposition à ce qu'on a pu voir dans les années 80-90. Et je pense que là, Thierry de Montbrial aurait beaucoup à dire, hein, sur la question de l'intérêt national, l'approche gaulliste des relations internationales, etc. Et qui est centrale dans le dialogue entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou dans le dialogue bilatéral de pays particuliers avec le Sud. Hein, si vous prenez le temps d'écouter nos amis de l'ensemble du continent africain, je crois pas me tromper en vous disant ça.
Alors, bien évidemment, la CEDEAO, juste pour nos éditeurs, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, cette adhésion qui n'est pas encore totalement effective, il y a une réunion en décembre prochain, le 16 décembre très exactement, à Lomé, qui devrait marquer l'intégration du Maroc. Les pays craignent la concurrence du Maroc au sein de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Peut-être sans mobiliser
Karim
la parole,
Alina, oui.
Rapidement. Je crois que dans les processus de négociation commerciale, c'est assez usuelle, si vous voulez. L'ensemble de Maroc a signé à peu près 55 accords commerciaux ou accords de libre-échange avec différents blocs régionaux ou pays. De la même manière, vous avez eu des discussions très complexes et très émotionnelles entre ce que devait faire l'Union européenne avec le Canada récemment en Europe. Bien sûr, alors il faut expliquer, les processus d'intégration, au-delà même de l'adhésion en tant que telle, sont des processus au long cours. Et donc l'idée vraiment, c'est le commerce en tant qu'économie, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Bien au contraire, c'est une part du gâteau qui augmente. Hein, et donc c'est tout ça l'enjeu. Je vais vous donner quelques exemples simples. On pourrait bien imaginer un pool d'électricité, un marché de l'électricité unifié entre l'ensemble de la zone CEDEAO, le Maroc, mais tout de suite, vous avez l'interconnexion électrique avec l'Europe. Nous avons nous-mêmes 3 interconnexions. Nous sommes d'ailleurs interconnectés électriquement avec notre voisin avec qui nous avons des relations difficiles. Il y a quelques échanges d'électricité. Clairement, là, c'est un projet Europe, Afrique, CEDEAO avec le Maroc, Europe, dans lequel, sur le solaire, par exemple, pour faire évoluer le mix énergétique. Beaucoup d'autres idées. Le Maroc est venu avec une proposition d'un gazoduc Nigeria-Maroc qui passerait par l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO aujourd'hui. Donc, les chaînes de valeur, l'automobile, l'avionique, etc., on pourrait imaginer une intégration entre ces pays-là, d'accord? Donc je vois pas la logistique, agriculture, il y a plein de bonnes idées. Il faut expliquer, il faut faire œuvre de pédagogie, et puis montrer l'intérêt pour tout le monde, pour l'ensemble des parties prenantes. Donc il est normal qu'il y ait certains secteurs particuliers sur lesquels il y a des questions de concurrence avec les exportations marocaines, que vous ayez ce type de discussion. Mais ça me paraît pas très inquiétant.
Assia Ben Salah, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Mais écoutez, très brièvement, d'abord parce que le Maroc est très attaché aux intégrations régionales. Cela ne vous a pas échappé, puisqu'il avait même demandé l'adhésion à l'Union européenne. Donc, mais il est clair que devant la faillite de l'UMA, que nous ne pouvons que déplorer, mais constater, il est tout à fait logique que, ayant déjà repris ses liens traditionnels avec l'Afrique, mais qu'il a étoffé, étendu, intensifié, étendu à tous les secteurs, il était logique. Cette intégration régionale, comme disait aussi Feu Hassan II, on va du faisable au souhaitable, parce que cette dimension sous-régionale est plus intime, il y a plus de faisabilité. Il est tout à fait clair que dans toute intégration, il y a la dynamique à la fois de la coopération et de la compétition. Mais tout cela est une affaire de diplomates et de négociations qui sont dans le domaine économique et qui, par conséquent, c'est ce que je voudrais aussi ajouter, et je crois que c'est le plus que le Maroc apporte, c'est également sa capacité comme catalyseur de coopération trilatérale. Karim a évoqué la Chine. Pour ma part, j'évoquerai aussi le Japon, qui, comme vous savez, est extrêmement actif en Afrique, et avant sa crise, c'était même le premier investisseur. Mais il fait un retour en force avec la TICAD, etc. Moi-même, je suis vice-président de l'association d'amitié Maroc-Japon, et nous travaillons énormément. Et le Maroc joue un rôle fondamental, parce qu'il fait le lien avec le background culturel qu'il connaît bien en Afrique. Et vous savez, les Japonais sont parfois durs pour démarrer les négociations, mais quand ils sont là, ils ont besoin de... Ils sont très efficaces et très efficients, et le Maroc joue ce rôle dans la problématique de l'éducation de base, dans la problématique de la pêche, et également peut-être pour l'agriculture. Donc vous voyez, c'est pas seulement le Maroc tout seul, le Maroc arrive aussi avec tous les atouts qu'il peut apporter dans cette corbeille de mariée, qui est vaste, je reconnaîtrai, 15 pays. C'est vrai que ceci soulève aussi quelques appréhensions. Parlons-en, par exemple, dans le domaine migratoire. Et le Maroc dit, nous avons une politique de migration qui est extrêmement généreuse. Je me félicite d'ailleurs que les ONG, notamment les femmes, soient en première ligne pour l'accompagner, parce qu'elles ont créé des ONG pour aider les subsahariens à s'intégrer, à trouver des jobs, à inscrire leurs enfants à l'école, à bénéficier des systèmes de santé, puisque tout cela a été donné déjà aux 27 000 subsahariens qui ont été régularisés. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a tout un nombre de politiques qui s'interfécondent d'une certaine manière.
Géopolitique depuis Marrakech, où se tient la 10e édition de la World Policy Conference. Nous retrouvons nos invités Assia Ben Salah, Karim El Enaoui et Thierry de Montbrial dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
politique depuis Marrakech où se tient la 10e édition de la World Policy Conference. Regard sur la place du Maroc dans son environnement régional et continental. Nous retrouvons nos invités. Assia Ben Salah, ambassadeur itinérante de Sa Majesté le Roi. Karim El Ennaoui, directeur général de OCP Policy Center. Et Thierry de Montbrial, membre de l'Institut, président et fondateur de l'IFRI de la World Policy Conference, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, Vivre le temps des troubles, chez Albin Michel. Thierry de Montbrial, on a beaucoup évoqué dans la première partie de l'émission la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, intégration qui est entrée en vigueur en janvier dernier, l'intégration aussi du Maroc dans la CEDEAO, les relations difficiles avec l'Algérie. Un commentaire sur ce que nous avons déjà évoqué.
Tout ce qui a été dit dans la première partie de l'émission par Assia Ben Salah et Karim El Ennaoui est profondément juste. Mais en même temps, je crois qu'on ne peut pas trop gommer la... Je ne sais pas s'il faut parler de néo-réalisme ou autrement, mais il y a des réalités politiques qui parfois supplantent la logique économique et même l'aspiration des peuples au développement, etc. Bon. Il se trouve que j'ai fait mes débuts dans le domaine de la politique étrangère il y a exactement 44 ans. Comme directeur du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque français était un très grand ami du Maroc, qui s'appelait Michel Jaber. Et c'était un grand ami du Maroc, mais en même temps, il était sans concession. Je veux dire par là qu'il parlait vrai. Et moi, je me souviens quand il m'a dit « Vous ne verrez jamais de votre vivant la réconciliation entre le Maroc et l'Algérie ». Bon, il m'a dit ça il y a 44 ans. Alors ensuite, on peut chercher les raisons profondes. Je crois qu'il y a des raisons extrêmement profondes à cela et qui sont en particulier un problème identitaire tout à fait réel qui concerne l'Algérie, qui a une histoire complexe, on va dire. Et un pays comme le Maroc, qui est un pays qui a une identité solide, une longue et belle histoire, qui a des institutions politiques dont on s'aperçoit d'ailleurs de mieux en mieux combien elles sont pertinentes dans le monde actuel. Et puis, il y a les conflits territoriaux de type classique, les jeux d'images, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je crains que Michel Jaber n'ait raison. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peu de chances que dans mon vivant, je vois une vraie réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. Or ça, c'est stupide. On est même dans l'ordre de l'absurde. Parce que quand vous voyez les ressources énergétiques et autres, et humaines d'ailleurs, du Maroc, les ressources de l'Algérie, je voulais dire, et les ressources humaines, naturelles, etc., du Maroc, on voit à quel point un développement un peu cohérent de l'Afrique du Nord dans son ensemble pourrait être un atout pour l'ensemble de l'Afrique. Alors, bien sûr, il ne faut pas désespérer, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cet obstacle. Et cet obstacle, d'ailleurs, qui en grande partie explique toutes les campagnes internationales qui, en définitive, se répercutent au sein de l'ONU, au sein de l'Union africaine, etc., etc. Et tout ce que les... je crois que ça peut même, d'ailleurs, un pays comme la France, vous parliez de la relation entre la France et le Maroc, ça nous met aussi devant la situation parfois extraordinairement difficile. Là, on est dans les faits, si vous voulez, dans les faits politiques, dans les réalités politiques.
La France, dont on peut rappeler que le Maroc bénéficie du soutien de Paris sur cette question du Sahara. C'est important de le rappeler. Et Emmanuel Macron, président français, a choisi le Maroc pour sa première visite à l'étranger. C'était en juin 2017. Alors, c'est vrai qu'on évoquait ces intégrations régionales. Le Maghreb est aujourd'hui la région la moins intégrée du continent africain. Il est vrai aussi que cette question de la frontière fermée entre l'Algérie et le Maroc, pour poursuivre sur ce dossier, est une question qui pourrait durer aussi longtemps que...
Thierry de Montbrial, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a un coût d'opportunité immense. Il a été chiffré, en tout cas, la perte permanente de croissance, si vous voulez, en permanence, c'est de l'ordre de 1 à 2 points de PIB.
Pour le Maroc.
Pour tous. Donc, effectivement,
Si on ajoute les bêtises de l'Algérie, parce que l'Algérie, avec ses ressources immenses, ne connaît pas de développement à cause de son blocage de son système politique. Donc, je pense que si on ajoute les facteurs, les inefficacités du régime, plus celles dont on parle, ça fait des chiffres énormes.
Oui, le potentiel de cette région, en définitive, et vous pouvez y inclure notamment la Tunisie, le potentiel de cette région, c'est d'être un pays... d'avoir une trajectoire à la coréenne. Il n'y a aucune raison particulière.
Et d'entraîner le reste de l'Afrique.
Oui, il n'y a pas. Mais en même temps, le réalisme veut que la situation est celle-là et que vous devez aussi garder de la capacité pour vous développer et aller vers l'Afrique et trouver d'autres voies. Vous ne pouvez pas dépenser tout votre capital politique, diplomatique, etc., financier et autres, juste sur cette problématique, puisqu'il faut aussi construire l'avenir et trouver d'autres voies. Puisque, je sais pas, c'est comme au foot, hein, quand c'est bloqué au centre, on essaie de passer par les ailes. Alors c'est pas optimal, ça a été bien dit, c'est effectivement, c'est même un peu, au plan émotionnel, un peu désolant, mais c'est une réalité à laquelle on est confronté, et effectivement, ça devient même quelque part, que vous disiez, Assia, ça devient une espèce de chose qui est là, comme ça, avec une réalité désincarnée aussi, peut-être, sur le terrain, un peu différent.
Qu'est-ce qui pourrait finalement faire bouger le curseur, Thierry de Montbrial ?
Bon, je connais le Maroc depuis, je crois, le premier voyage, c'était il y a 50 ans. Mais vous savez, plus on connaît un pays, plus on sait qu'on ne le connaît pas. C'est évidemment classique. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui se fait au Maroc depuis un certain nombre d'années, et avec des politiques humaines, d'ailleurs des politiques de développement extrêmement pertinentes. Je pense notamment à tout ce qui se fait dans la mouvance du groupe OCP, l'université Mohamed VI, etc. Et on voit là des solutions, des innovations qui sont porteuses d'avenir pour l'Afrique en général, et en tout cas dans un premier temps pour les pays d'Afrique avec lesquels le Maroc a le plus de relations, et notamment sur le plan économique. Alors c'est là que je rejoins d'ailleurs ce qui a été dit dans la première partie de l'émission, parce que l'intérêt national, si on reprend la notion d'intérêt national d'un certain nombre de pays africains qui sont actuellement en relation avec le Maroc, c'est de développer ces relations de type économique, technologique, etc. Et à travers ça, on peut en effet espérer que ça fera bouger les lignes. La seule chose, c'est, je crois qu'il ne faut pas, comme toujours d'ailleurs dans la vie, sous-estimer le temps, le facteur temps nécessaire pour de vraies évolutions.
Assia Ben Salah, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Écoutez, je voulais simplement rappeler qu'effectivement, nous sommes à la veille de la commémoration de la Marche verte, qui est le 6 novembre. Et n'oublions pas qu'à travers cet acte, qui a été quand même une rupture fondamentale dans l'approche du Maroc, nous avons renoué avec les provinces du Sud, et que pour l'instant, comme il n'y a absolument pas, Thierry parlait du curseur, est-ce qu'on peut le faire bouger ? Mais il faut être deux pour faire bouger le curseur. On ne peut pas attendre ad vitam aeternam que l'Algérie veuille bien prendre ce dossier et sérieux, et c'est-à-dire s'engager dans de véritables négociations. S'il y a lieu, de toute façon, le plan d'autonomie...
On peut faire pousser le curseur ailleurs en Afrique.
Mais c'est ce que nous faisons, mais surtout ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faire notre homework. Mm-hmm. Nous avons fait le plan d'autonomie après un certain nombre d'années, qui a été quand même accepté par la majorité de nos partenaires au sein des Nations Unies et que la France soutient. D'ailleurs, Monsieur le Président de la France a donné même ses instructions pour que, dans le Conseil de sécurité que la France préside en ce moment, eh bien, cette question soit assez prioritaire. Donc, l'on voit bien, les gens sont fatigués de ce statu quo qui empêche le développement de quelque chose de plus heureux dans la région et qui a besoin de nouvelles heureuses. Et par conséquent, nous avançons par rapport à cette problématique-là, par rapport aux besoins des populations, par rapport à l'obligation d'aller vers un autre plan de développement, d'inclure la jeunesse, parce que c'est là le problème, et nous n'avons pas encore parlé de l'essentiel, c'est-à-dire les menaces qui pèsent quand même sur la région, et où le Maroc a un rôle fondamental à jouer. Et c'est ça notre devoir et notre priorité. C'est de donner à nos populations de véritables enjeux dans leur société, qui est la base même de la sécurité.
Alors, on y viendra sur ces menaces qui pèsent sur la région. Mais pour terminer, peut-être sur ce dossier de la relation difficile entre le Maroc et l'Algérie, Thierry de Montbrial, est-ce qu'il faut voir dans la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine un élément qui pourrait permettre de faire bouger ce curseur que nous évoquions tout à l'heure ?
Incontestablement. C'est pour ça que j'ai interféré avec ce que disait Assia, parce que, en effet, faute pour le moment de pouvoir faire bouger les lignes avec l'Algérie, on peut les faire bouger, ce que fait en effet le Maroc, à travers un certain nombre de pays africains qui vont constater que leur intérêt est de plus en plus d'aller dans le sens d'une vraie normalisation des rapports avec le Maroc. Alors, ça, c'est un fait, mais Assia vient également d'évoquer les menaces. Moi, je voudrais juste rappeler aussi que parmi les conséquences de l'absurdement nommé printemps arabe, il y a une déstabilisation profonde du Sahel, que nous sommes en plein dedans, qu'il y a là des menaces absolument majeures pour l'Afrique elle-même, bien entendu, mais également pour l'Europe. Et on ne peut pas non plus négliger ce problème sécuritaire. Et je crois d'ailleurs que ceci est de mieux en mieux compris. Mais il faut nommer un chat un chat. Là, je crois qu'il y a des situations qui étaient inimaginables il y a encore une dizaine d'années, si vous voulez, et qui sont extrêmement préoccupantes.
Alors, on va s'arrêter peut-être quelques instants sur la question libyenne. Dans le Sahel, il y avait, bien sûr, il y a beaucoup de rivalités dans la gestion de la crise en Libye, et on retrouve là aussi cette rivalité entre le Maroc et l'Algérie, qui ne vient pas simplifier la quête d'une solution pour la question libyenne, Thierry de Montboyal.
Oui, mais l'Algérie également se trouve dans un paradoxe, c'est-à-dire puisque d'un côté elle a aussi intérêt à une certaine norme de stabilité, mais elle peut aussi avoir envie de jouer des divisions, etc., et de contribuer au désordre parfois. Ça fait partie des choses extrêmement complexes, mais je voudrais dire un dernier mot sur la Libye et généraliser un petit peu. Ce que nous sommes en train de redécouvrir, et ça fait partie, je crois, du vocable néo-réalisme, c'est que on ne joue pas impunément avec les régimes politiques d'autrui. Et que c'est une conception un peu néoconservatrice à l'américaine des relations internationales qui a pris valu, faut bien le dire, jusqu'à récemment en Europe. Et je pense que les conditions dans lesquelles s'est fait le renversement du régime Kadhafi, c'est que, en disant ça, je n'exprime évidemment aucune sympathie pour ce régime, mais les conditions dans lesquelles ce renversement a été effectué a créé une déstabilisation dont on paye encore bien évidemment les conséquences. Et le fait qu'il y ait des luttes d'influence entre, en particulier entre les deux grandes régions est-ouest de la Libye, fait que le problème n'est toujours pas réglé.
Assia Ben Salah, quel rôle pour le Maroc dans la résolution de la situation de la crise en Libye ?
Ben écoutez, moi je crois que le Maroc a fait énormément, puisqu'il a, comme vous le savez, sponsorisé quand même pendant plus de 2 ans le dialogue interlibyen, en mettant en présence les différents acteurs. Maintenant, ceci dit, la situation en Libye est extrêmement complexe. Les parties prenantes elles-mêmes évoluent. Et par conséquent, on a vu dernièrement le paysage en quelque sorte bouleversé, parce qu'on a vu que Haftar, qui auparavant était un acteur parmi d'autres, est en train de conquérir, si je puis dire, ses galons de maréchal, même s'il ne l'est pas. Et par conséquent, je crois que le problème libyen est d'abord un problème, la solution est en Libye. C'est une société quand même tribale, avec des factions, avec des rivalités, et surtout, ne l'oublions pas, qui a été quand même interpénétrée par ce mouvement, par cette translation des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à Daesh, et qui arrivent sur place et qui ont établi le lien avec les groupes terroristes locaux, et par conséquent, ça a considérablement complexifié la situation, que ce soit à Misrata ou bien à Sirte, etc. Donc maintenant, on avait vu l'ébauche d'une solution, mais il est clair que, encore une fois, les puissances étrangères et même les acteurs régionaux ont une emprise extrêmement limitée sur la chose. On l'a vu avec les Américains qui voulaient « lead in from behind », on a vu le rôle qui a été joué, et finalement, ça n'a strictement rien réglé, et le problème de la Libye demeure entier, parce que les groupes à l'intérieur ont des sponsors différents, et en fait, ce sont d'autres États qui se livrent la guerre par la Libye interposée. C'est toujours le même problème, c'est toujours le même problème. En plus, ça se complique considérablement avec la boîte de Pandore concernant les armements extrêmement sophistiqués qui ont déferlé sur le Sahel, qui ont considérablement compliqué le paysage déjà extrêmement éprouvé du Sahel, et la problématique évidemment du trafic des migrants, avec maintenant on voit le jeu un peu dangereux de l'Italie qui est en train de négocier avec des ONG, avec des factions. Donc tout cela est extrêmement complexe et il est clair que les pays régionaux n'ont pas la capacité. Moi je pense quand même à la Tunisie qui se trouve victime de cette problématique libyenne et qui va être tirée vers le bas aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan économique, que sur le plan culturel.
Alors, pour en revenir au Maroc, rapidement, en guise de conclusion, finalement, à chacun, je vais vous demander, Thierry Monbrial a dû nous quitter, quelles sont sur le plan politique, sur le plan économique, les priorités du Maroc aujourd'hui ? Karim El Hennaoui.
Sur le plan économique, bien sûr, c'est comme beaucoup de pays, c'est la création d'emplois, c'est l'inclusion sociale, c'est un développement soutenable. Et d'abord, ça, ce sont les stratégies de croissance internes au pays, donc au Maroc, qui sont fondamentales. Le Maroc étant une petite économie, avec ce qu'on appelle en économie une petite économie ouverte, elle doit nécessairement chercher des sources de croissance à l'extérieur. Donc l'ancrage avec l'Union européenne est très forte. Comme vous le savez, on fait à peu près 60 à 65% de nos échanges avec l'espace de la zone euro, d'ailleurs. Et de manière croissante avec l'Afrique, qui croît à des rythmes rapides. Il y a un nombre important de pays qui ont des taux de croissance au-delà de 5-6%. Compte tenu de la taille de l'économie marocaine, ce sont des moteurs pas inintéressants de croissance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'enjeu, c'est une intégration plus forte. Donc ça suppose une convergence des normes, une convergence commerciale, d'où donc la CEDEAO dont on a parlé. Mais ça suppose aussi des infrastructures de réseau. Aujourd'hui, un port comme Tangemed est connecté de manière régulière avec l'ensemble des ports africains. De la même manière, on a parlé d'électricité, d'énergie, télécom et autres. Et je crois que c'est ça l'enjeu pour le Maroc dans sa relation africaine avec une économie mondiale qui va un petit peu mieux. Donc c'est aussi pour nous une bonne nouvelle, et notamment la zone euro.
Alors, Assia Ben Salah, les priorités politiques pour le Maroc aujourd'hui ?
Écoutez, moi je crois qu'il n'échappe à personne que le Maroc s'est engagé d'une façon déterminée sur la voie de la démocratisation, que pour nous c'est un chantier tout à fait prioritaire, avec des défis immenses. Car il s'agit tout à la fois d'éduquer, de développer, d'ouvrir des horizons nouveaux à une jeunesse qui a besoin de travail d'abord. Parce que sinon, cette jeunesse, eh bien, on la laisse en proie aussi bien aux trafiquants qu'à la radicalisation que nous connaissons à travers toute la région. Par conséquent, Sa Majesté vient de parler de réfléchir en profondeur à un nouveau modèle de développement qui soit plus inclusif. Nous avions l'INDH, qui est l'initiative pour le développement humain, mais comme vous le savez, ça s'adressait bien aux groupes vulnérables, et par conséquent, ça a donné des résultats fantastiques, mais c'est pas assez. Donc il faut vraiment généraliser, il faut sortir les gens de l'exclusion, de la pauvreté et de l'analphabétisme, y compris, je dirais, pour les femmes, l'analphabétisme juridique, qu'elles soient capables de connaître les nouvelles lois. Les nouvelles lois améliorent la situation considérablement. On n'y est pas encore parce que nos revendications vont très au-delà. Néanmoins, il y a quand même une modernisation, je dirais, et une espèce de contagion. Nous sommes en train de voter la loi contre les violences sexuelles, qui tombe vraiment à pic avec l'anniversaire, comme vous le savez, de la 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, paix et sécurité. Mais ce qui est intéressant d'observer, et je m'en réjouis, car la liberté de parole a été vraiment libérée. Il y a des discussions oniriques. Il y a trop de controverses, il y a trop de polémiques. Il faut développer les vrais débats. S'attaquer à la misère sexuelle des femmes et des hommes qui ont des relations hors mariage. Et par conséquent, il faut prendre à bras-le-corps les vrais problèmes de société. Et c'est ce que, justement, nous tâchons de faire pour préserver cette véritable révolution culturelle que nous avons fait pour les femmes. Et j'espère gagner la bataille du développement, qui est une autre manche.
Merci. C'est la fin de Géopolitique depuis Marrakech, où se tient la 10e édition de la World Policy Conference. Merci Assia Ben Salah. Je rappelle que vous êtes ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi. Merci également à Karim El Hennaoui, directeur général de OCP Policy Center, et Thierry de Montbrial, membre de l'Institut, président et fondateur de l'IFRI et de la World Policy Conference. Dernier ouvrage, Vivre le temps des troubles, chez Albin Michel. Cette édition de Géopolitique est signée Marie-France Chatin et Bertrand Éclair depuis Marrakech, Nathalie Laporte à Paris.